L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est minuit 47, ce 17 juillet 1918. La Première Guerre mondiale, pourfendeuse d'existence humaine et de régime politique, bat toujours son plein en Europe de l'Ouest. Elle a eu raison depuis plusieurs mois déjà de l'un des empires les plus puissants du monde. La Russie des tsars a chuté à la suite de l'abdication de son dernier souverain, Nicolas II. Dans quelques instants, lui et toute sa famille seront assassinés lâchement par le régime soviétique en place depuis les révolutions de 1917. Ils sont loin de nier leur part de responsabilité dans cette sombre partie de l'histoire russe. Ils tenteront au contraire de le légitimer, le tout sous une couche de mystère digne des plus vieux grimoires. Revenons aujourd'hui sur la fin d'un monde d'Europe de l'Est, celui où un empire millénaire était l'un des maîtres du jeu politique et militaire. Minuit 47, l'heure H de mon histoire. Lourovski, fils de paysan modeste, est un membre respecté du Soviet de l'Oural, région au sein de laquelle est retenue prisonnière la famille impériale. Depuis l'abdication du tsar et l'avènement du régime communiste incarné par Lénine, ils sont tous en résidence surveillée. Durant les premiers mois, ils ont coulé des jours heureux. Nicolas et Alexandra, l'empereur et l'impératrice donc, ont pu profiter de leurs enfants comme ils n'ont jamais pu le faire lors du temps faste. Ils séjournent avec d'autres compagnons qui ont fait le choix de les accompagner. En tout, cette petite cour réduite et emprisonnée compte 11 personnes. Il y a un cuisinier, un valet de pied, une femme de chambre et le médecin personnel de la famille. À eux s'ajoutent les 7 membres de la famille impériale de Russie. Le couple a 5 enfants, 4 filles. Maria, Anastasia, Olga et Tatiana, ainsi qu'un petit héritier fragile et hémophile, Alexis. C'est cette fragilité qui a dissuadé Nicolas II d'abdiquer en faveur de son propre fils et le poussa à plutôt choisir son frère. Ce dernier abandonna le pouvoir dès le lendemain, tant la patate était chaude. Il craignait pour l'avenir du pays. Aujourd'hui, l'heure est au bilan et Nicolas se remémore ses mauvais choix. Et ils furent nombreux, contribuant chacun à les pousser un par un dans les abîmes. Le geôlier a été prévenu quelques heures plus tôt alors que l'héritier et son père se promenaient à l'extérieur de la propriété. Le télégramme, venu de Moscou, était on ne peut plus clair. Il faut exécuter les Romanov. Cette extrémité avait déjà été envisagée au début de l'été. Néanmoins, celui qui commandera bientôt le peloton donnant la mort est pris de sueur froide à la lecture du message. Par ses mains, c'est l'histoire entière de son pays qui s'apprête à changer. Non, bien sûr, il les hait. Ces aristocrates qui représentent un temps où les pauvres du pays et les ouvriers étaient au banc de la société. Mais il a aussi appris à mieux les connaître depuis qu'il les surveille. Il apprécie leur simplicité et leur gentillesse. Mais les ordres sont les ordres. Alors, peu avant minuit, le geôlier réveille sommairement le valet de chambre de l'ancien souverain. C'est à lui de faire lever tous les membres de la famille impériale. On leur dit qu'ils doivent se préparer pour un voyage dont ils ne connaîtront pas la destination. Rapidement, l'impératrice Alexandra aide son jeune garçon Alexis à préparer ses effets personnels. La femme de chambre est avec ses filles, qui revêtent leurs habits les plus précieux. Et ils le sont en effet car leurs plus beaux bijoux sont cousus dans les corsets, et les autres iront dans les valises. Un petit quart d'heure après le début de cet étrange manège, toute la petite bande descend. Alexis est porté dans les bras de son père car il a été victime d'une crise d'hémophilie sans gravité il y a quelques semaines. Il est donc encore faible. Une fois près de la porte d'entrée, on annonce aux 11 prisonniers qu'ils doivent prendre l'escalier menant au sous-sol afin de pouvoir entrer dans un camion directement à la sortie de la cave. Effectivement, lorsqu'ils arrivent en bas, Nicolas II remarque à l'extérieur un camion dont le chauffeur fume une cigarette. Le moteur est éteint. Il demande au geôlier pour quand le départ est prévu. Alors qu'il leur ordonne de se placer contre le mur, aucun d'entre eux n'a encore conscience de ce qui se trame. L'impératrice se plaint qu'il n'y a pas de chaises sur lesquelles s'asseoir. Sans faire obstacle à sa demande, le geôlier en fait apporter deux. L'ex-souverain prend d'abord son fils sur ses genoux avant de se relever et de le poser sur une des chaises. Sa femme a pris la deuxième. Tout le monde attend, sans tension ni appréhension. Prétextant le besoin de prendre des photos prouvant la bonne santé de tous pour Moscou, le gardien en chef sort de la pièce comme s'il allait chercher un appareil. En réalité, il file dans l'armurerie adjacente et équipe ses hommes de pistolets et de fusils mitrailleurs. 12 hommes entrent alors dans la pièce, le geôlier en dernier. Nicolas regarde alors son fils, l'héritier d'une patrie millénaire, le jeune aigle impérial qui un jour aurait dû régner après lui. Le communiste s'exclame. Nikolaï Alexandrovitch, les vôtres ont essayé de vous sauver, mais ils n'y sont pas parvenus. Et nous sommes obligés de vous fusiller. Votre vie est terminée. Pour seule réponse, l'empereur répond un « quoi ?» totalement étonné et se tourne vers son fils, les yeux remplis de panique. Le camion, à l'extérieur, démarre son moteur. Ensuite, tout va très vite. Le commandant du peloton lève son arme et tire sur Nicolas II. Tous limitent. La plupart des balles touchent de plein fouet l'ancien maître du pays. Avec lui, c'est la Russie de Pierre le Grand et d'Ivan le Terrible qui s'effondre, celle d'Alexandre Ier et de la victoire sur Napoléon Ier. Le panache des chevaliers gardes, l'impétuosité des cosaques et le mysticisme du règne, tout se meurt. Le vaillant barbu, issu de la famille de la reine Victoria, glisse le long de ce mur froid et humide dans cette cave de l'Oural. Les autres ne sont malheureusement pas en reste. L'impératrice, sur sa chaise, est fauchée comme les blés au cœur de l'été. Elle meurt sur le coup, elle aussi. Les compagnons, le médecin, le valet de chambre, le cuisinier sont exécutés sans plus de considération. Ils meurent, le visage contre le sol, foulé par les bottes des rouges. Les grandes duchesses, les trésors de tout un pays, et l'héritier surtout, eux aussi, sont touchés par les balles. Les 13 hommes vident leurs chargeurs. La fumée qui se répand dans la pièce, l'odeur du sang, la sombre besogne effectuée, tout est insupportable. Et les lâches meurtriers ne sont pas au bout de leur surprise. Rampant au sol, l'héritier se dirige vers la porte. Il est vivant. C'est là que le commissaire du régime, Pierre Ermakov, lui défonce le crâne à coups de baïonnette. Tous les hommes sont morts maintenant. Si l'impératrice a bien péri sous les balles, ce n'est pas le cas de ses filles, ni de sa femme de chambre. Les diamants cousus dans les corsets ont servi de gilet pare-balles. Alors qu'une dizaine de chargeurs n'ont pas suffi à les plonger dans les bras de la mort, on leur inflige l'ultime humiliation du projectile tiré dans la tête. Ainsi meurt la dernière famille impériale d'Europe. Ainsi plonge dans les ténèbres un pays commandé par Lénine. Il ne sera pas moins tyrannique que celui qu'il vient de faire assassiner pour cette raison. À la sortie de la scène du crime, certains des soldats du peloton vomissent. D'autres se réjouissent. La nature humaine dans toute sa complexité, en somme. Le geôlier, lui, se sent mal, mais ne peut défaillir. Il a des ordres. Il fait envelopper les corps dans des draps blancs, sans plus de cérémonie. Le camion, qui devait les conduire en lieu sûr, emmène leurs dépouilles dans une fonderie. Là, toute la nuit, ils sont brûlés à la chaux vive et au vitriol. À l'aube, les corps ne sont pas totalement dissous et le geôlier fait revenir ses hommes la nuit suivante. Le bal de l'horreur ne semble jamais se terminer. Deux jours plus tard, une annonce paraît dans la presse nationale annonçant que le monarque a été exécuté sur ordre des autorités de l'Oural. En plus d'être le commanditaire des meurtres, Lénine n'a pas le courage d'agir à visage découvert. C'est Trotsky qui finira par dénoncer ses agissements dans son journal personnel. Le caractère de l'annonce, lui, intrigue déjà. Si seul le souverain était tué, qu'est-il advenu des autres membres de la famille? Ont-ils finalement été sauvés? La culture du mystère entretenue par le pouvoir bolchévique va donner lieu aux plus grandes spéculations sur le sujet, et ce, durant des dizaines d'années. Nous allons ensemble plonger dans la Russie soviétique, des redoutables leaders que sont Lénine et Staline. Pour comprendre les raisons d'un tel extrémisme, il nous faut revenir quelques mois en arrière. Nous sommes le 15 mars 1917, en fin de matinée. Nicolas II, d'une frêle signature obtenue dans un train, abdique en faveur de son frère. Lassé de la guerre qui se perd aux frontières et qui coûte un argent fou, lassé des privations et du peu de liberté dont ils jouissent, les ouvriers se révoltent. Quelque temps avant ces événements, Raspoutine a été tué. Ce mystérieux conseiller, régent lorsque l'empereur était sur le front, est l'une des causes de la mauvaise image que peut avoir la tsarine et le régime. Trop de départs de feu s'allument alors et ne s'éteindront plus. Nicolas II est seul pompier en première ligne. Il est incapable de réformer. Sa vision est le pouvoir suprême sans compromis. Et il s'enfonce. La révolution de février 1917 a éclaté à la lueur du jour lorsque, répondant aux manifestations, la police a répliqué par des tirs. L'armée s'est rangée du côté des manifestants lors des défilés organisés dans les faubourgs de Saint-Pétersbourg pendant la journée de la femme. Ces deux événements sont les premiers signes de cette révolution qui commence. Une semaine plus tard, c'est l'abdication puis la chute définitive du régime. Le frère de l'empereur refuse la poudrière qui lui aurait servi de trône et un gouvernement provisoire est nommé. La bourgeoisie prend le pouvoir. L'aristocratie, elle, sent le vent du boulet le long de son cou. Cette première étape n'est qu'un début. En exil depuis 10 ans, Lénine est de retour en Russie à la mi-avril. Le chef de file des bolcheviks fait une entrée des plus triomphales à Pétrograd et déjà, le communisme grimpe en influence. En juillet, l'armée russe, toujours engagée contre les forces de l'Alliance, est faible. Son seul espoir de victoire est une contre-offensive. Le gouvernement provisoire décide de la lancer en Galicie. Les soldats de l'intérieur et les ouvriers de la capitale se révoltent contre le gouvernement provisoire. Le terrain politique est considérablement miné et durant 4 jours, le gouvernement provisoire manque de se faire renverser. De nombreux responsables bolcheviks sont arrêtés. Lénine, une nouvelle fois, est contraint d'entrer dans la clandestinité. Pour autant, si les gouvernants gagnent du répit, il est bref. En effet, ils ne réussissent pas à mettre en place les réformes nécessaires après l'abdication de l'ancien souverain. Depuis novembre, c'est l'insurrection. Saint-Pétersbourg est prise par les bolcheviks. Le palais d'hiver, siège des tsars durant des siècles, symbole même de la puissance de droit divin, tombe sans résistance. 2 jours plus tard, Moscou est vaincue elle aussi. Cette révolution, l'une des moins sanglantes de l'histoire, a lieu alors que les magasins et les théâtres restent ouverts. Dans les cercles politiques cependant, c'est l'effervescence. Et la bourgeoisie est chassée du pouvoir. Lénine devient le maître absolu de la Sainte-Mère Russie. Le début de l'année 1918 voit la création de l'armée rouge et de la non moins célèbre URSS. Mais le spectre de la guerre civile rôde encore. Les combats incessants et les défaites qui s'accumulent jouent sur le moral de la population. En mars, Lénine décide d'abandonner les alliés de la Russie et de signer une paix séparée avec l'Allemagne. Dans la foulée, Saint-Pétersbourg ne jouit plus de son statut de capitale transférée à Moscou. C'est dans ce contexte des plus périlleux que se déclenche une machine infernale à l'intérieur du pays. Certains esprits, militaires et civils, sont restés fidèles à l'empereur, exilés avec toute sa famille. Cette armée blanche, en opposition à l'armée rouge, fidèle aux communistes, s'engage dans un face-à-face qui ne conduira qu'à la mort de la famille du tsar. Si la majorité des forces armées changent de camp au profit des nouveaux venus au pouvoir, certains officiers refusent d'accepter que la monarchie ait été renversée. Plutôt issus de l'ancienne aristocratie et donc déçus de perdre privilèges et honneurs, ces derniers décident de lever des forces puissantes mais désunies. Leur pouvoir est tel qu'après quelques mois de guérilla et d'affrontements épars, ils sont maîtres de la quasi-totalité du territoire. Seuls la province autour de la nouvelle capitale, Moscou, est à la main des Soviétiques. Pour le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Isolée du côté d'Ekaterinbourg, la famille impériale n'est pas au courant de l'avancée de ses partisans. Leurs geôliers, eux, maudissent la pression qu'ils reçoivent des autorités centrales qui prévoient depuis plusieurs mois déjà des scénarios afin de liquider l'ensemble du clan, pour le moins gênant. Il faut dire que, entre l'abdication en mars 1917 et le meurtre en juillet 1918, il s'écoule plus d'un an de captivité dans plusieurs résidences surveillées. À Moscou, on ne sait que faire de ce souverain qui a fait le choix de partir. Lui permettre un exil en l'envoyant en Angleterre, là où son cousin règne. L'autoriser à aller en France, avec laquelle il entretient d'excellentes relations. L'envisager, c'était prendre le risque de le voir un jour revenir et soulever les cœurs pour les chasser, eux, du pouvoir. D'un autre côté, le garder prisonnier à l'intérieur du pays de cette manière, c'est s'exposer à un enlèvement par des forces séditieuses, comme ces armées blanches. Et puis le maintenir en vie de la sorte. C'est entretenir le mythe d'un éventuel retour. Alors rapidement, Lénine prend sa décision. Nicolas II, son héritier, sa femme et ses filles doivent mourir. Et le régime tsariste, lui, doit être rayé de la carte. Cependant, nous l'avons vu. Après les meurtres, certaines voix s'élèvent. Elles remettent en doute la version officielle, suggérant même que certains membres de la famille impériale auraient pu s'échapper. Pour comprendre les tenants et les aboutissants d'un mystère qui s'épaissit toute la première partie du XXe siècle, nous devons remonter quelques mois en arrière et parcourir les 18 mois de la captivité de l'ancien empereur de toutes les Russies. Ce pan de notre histoire commence sous un lever de soleil ardent, le 30 mars 1917.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire d'une chute comme jamais la Russie n'en avait connue, celle des tsars. Alors que la Première Guerre mondiale fait rage, l'empereur Nicolas II est contraint à l'abdication devant la révolution menée par l'extrême-gauche incarnée par Lénine. Ce dernier, désormais à la tête du pays, juge la famille impériale trop encombrante. Il décide de les faire tous exécuter après plus d'un an d'exil. Après cela, certaines rumeurs évoquent pourtant la potentielle survie de certains membres du clan Romanov, les conditions de leur disparition ou bien encore la responsabilité du massacre. Pour tout comprendre, il est nécessaire de remonter un an avant la mort de l'ancien maître absolu de l'immense territoire slave. Nous sommes le 30 mars 1917. Le soleil se lève à peine que déjà les faubourgs de la ville de Saint-Pétersbourg s'agitent. L'air ambiant est pesant. Une chape de plomb entoure le quartier du mirifique palais impérial. De sa fenêtre, Nicolas II, machinalement, crolle sa moustache de chaque côté. Voilà déjà une quinzaine de jours qu'il n'est plus qu'un citoyen ordinaire. Enfermé, cloîtré comme le dernier des prisonniers, il enrage. Des soldats de basse exaction ont envahi son palais et se permettent de lui donner des ordres, de malmener ses filles. Il n'a jamais imaginé un tel désastre en abdiquant en faveur de son frère. Le lâche. Même pas eu le temps de ressentir la pression que déjà il a abandonné le destin du pays entre les mains de ces fous aux brassards rouges. Seul contre tous, face à la tempête qui ravage le radeau tremblotant, incarnant sa chute, la famille arrive trop tard pour colmater les brèches. D'un navire amiral incarné d'un aigle à deux têtes, bâti par Alexandre Ier ou Pierre le Grand, Nicolas II se sentait responsable de cette inexorable et infinie descente vers les abîmes. Soudain vêtu d'une simple robe, sa femme, l'impératrice Alexandra, entre dans la pièce. D'origine allemande, elle incarne à elle seule toute la haine du peuple envers le régime. Désignée régente durant l'absence de son mari sur le front, manipulée par ce diable de Rasputin, elle a cristallisé sur elle toutes les critiques. Elle a un jour été une belle femme, fringante et fière de porter la couronne sur sa tête. Aujourd'hui, elle n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a incarné, mais jugée froide, hautaine aussi. Elle a peiné dès le départ à se faire une place dans le cœur de ses sujets. Et elle en a tiré des conclusions hâtives, obsessionnelles. Les Russes ne l'aiment pas. Le déséquilibre entre les époux est immense. Nicolas II passe pour un faible de caractère et cette louve allemande à ses côtés le ferait presque passer pour un louveteau. Face à la volonté presque maladive de sa femme de vouloir bien faire, face à ce caractère trop fort pour ses épaules, l'empereur s'est effacé et a fini par se noyer. Mais ce matin, la louve baisse la tête. Sans un regard pour l'ex-souverain qui suit les mouvements du soleil par la fenêtre, elle s'assoit sur un fauteuil attenant. Elle a entendu des soldats hier soir qui parlaient dans les couloirs du palais. Les rouges commencent à évoquer la possibilité de les déplacer. Nicolas II, lui, croit encore à la solution diplomatique. En coulisses, l'Angleterre s'active certainement pour lui accorder un droit d'asile. Il en est persuadé. Mais la réalité est tout autre. Accorder l'asile à toute la famille impériale russe, c'est une prise de risque. Un peu comme mettre un doigt dans un engrenage dont l'Angleterre, comme les autres, ne maîtrise pas les conséquences. La machine politique et diplomatique alors se met en marche contre Nicolas II. Alors certes, il a pu rejoindre sa famille au palais Alexandre après avoir été arrêté et privé de liberté dans un premier temps. Dans un élan hypocrite, le gouvernement provisoire lui laisse le choix. Rester en Russie ou partir. Alors qu'il espère l'Angleterre, il aura l'exil intérieur. Il demande à pouvoir partir, vivre pour toujours en Crimée dès que la guerre sera terminée. À chaque fois, les gouvernants accèdent à ses requêtes. Traîtrise ultime. Son propre cousin, le roi d'Angleterre, soutenu par la gauche, se montre lui aussi réticent à l'idée de l'accueillir de peur de déclencher des mouvements politiques incontrôlables. Pourtant, les chambres anglaises étaient prêtes à faire un geste. Mais ce revirement de la couronne stoppe tout processus. Cette piste qui s'effondre est un coup dur pour la famille impériale russe. Ils étaient pourtant persuadés de pouvoir compter sur le soutien de leur famille. La situation politique, elle, tend vers l'anarchie. Et l'armée allemande en profite. Le front se disloque. Les conditions de détention se durcissent. Les soldats, qui assurent la garde des prisonniers, bolcheviques pour la plupart, les ont surnommés « l'Allemande » ou « le buveur de sang » pour Nicolas. Une hystérie qui sert bientôt d'allume-feu à un immense brasier national. En juin, les enfants du couple attrapent la variole. Ils doivent être tous rasés. Ils posent sur une photo restée célèbre, le crâne luisant et le regard sombre. Les mois qui se succèdent sont particulièrement difficiles pour Nicolas II. Vêtu d'un simple uniforme, la croix de Saint-Georges sur la poitrine, il lit et jardine. Enfermé à Pouchkine, toute la famille subit des vexations et des privations qui deviennent difficiles à supporter. L'avancée de la Révolution et de l'armée allemande, qui matraque les forces russes depuis des mois, ne permet pas de remonter le moral de l'ex-souverain, tant vous le dire. Fin juillet, direction Tobolsk. Le gouvernement provisoire prétextant la nécessité d'éloigner la famille des Rouges. C'est faux. En réalité, ces derniers ne les ont pas encore totalement dans leur ligne de mire. Les gouvernants craignent un coup d'État monarchique qui pourrait utiliser Nicolas comme étendard. Au fin fond de la Sibérie, l'emprise ne peut pas être la même. Comme vous pouvez aisément l'imaginer, les conditions climatiques, elles non plus, ne sont pas les mêmes. Chapska, long manteau et écharpe font rapidement partie du quotidien. La nouvelle de la révolution d'octobre, qui permet aux bolcheviques et à Lénine de devenir les maîtres du jeu, n'atteint pas la petite ville qui héberge le tsar. Cette évolution politique très défavorable à la famille n'arrivera là qu'en avril 1918. En attendant donc, les gens sont plutôt en communion avec leur ex-souverain. Certains habitants bénissent la maison du gouverneur en faisant des signes de croix. Nicolas joue aux échecs avec ses gardiens, se fait immortaliser par eux, coupant du bois avec son fils. Ils peuvent se promener en ville, assez librement, mais hélas, les conditions de vie sont très difficiles. Juste avant de les accueillir, la maison du gouverneur a été pillée et vandalisée. Cependant, témoignant de l'amitié des habitants, le tsar écrira ceci. « Depuis quelques jours, nous recevons du beurre, du café, des gâteaux secs et de la confiture de la part de braves gens qui ont appris que nous avions dû comprimer nos dépenses de nourriture. Au début de l'année 1918, Nicolas II commence à regretter d'avoir abdiqué lorsqu'il voit la tournure que prennent les événements. À leur arrivée, les bolcheviks changent complètement les conditions de la captivité. Alors qu'il portait jusqu'alors ses épaulettes, Nicolas II est contraint de les enlever. Lénine est persuadé qu'une centaine de Romanov, donc des membres de sa famille, doivent être exterminés. La machine infernale se met en marche. Devant la peur d'une évasion, les communistes décident de transférer la petite troupe à Ekaterinbourg. Le déménagement va se faire en deux temps. Le couple impérial et une de leurs filles partent en premier, persuadés de prendre la direction de Moscou, mais arrivés à Ekaterinbourg, les bolcheviks locaux se saisissent d'eux et les transfèrent rapidement dans la maison à l'issue funeste. Le reste de la famille, à savoir les trois autres filles et Alexis, sont restés en Sibérie pour le moment, le petit dernier ayant été victime d'une nouvelle grave crise d'hémophilie. Les miracles de Rasputin sont déjà loin et tout le monde craint pour sa vie. La famille séparée traverse un enfer qui ne s'adoucira qu'un mois plus tard avec l'arrivée des enfants dans l'Oural. Cette région est le berceau de l'extrémisme rouge, peuplé de gens qui veulent la tête du buveur de sang et de sa famille. Nicolas II redoute particulièrement cet endroit, et à juste titre. La maison qui les accueille est déplorable, sale, insalubre. Ils doivent la partager avec des geôliers dont le nouveau chef, Lourovski, arrive en juin. Ce bolchevique de la première heure va pourtant se montrer diligent avec la famille. Mais les armées blanches progressent et bientôt, émanant directement de Lénine, l'ordre tombe. Les Romanov doivent mourir. C'est là que l'épisode de la cave a lieu. La mort sur le coup de Nicolas et des hommes qui les accompagnent, de sa femme également. On aurait ensuite achevé les filles et l'héritier du trône. Cependant, la suite semble n'être qu'un mystérieux dédale de mensonges et d'imprécisions couvés par le pouvoir central de Lénine. Mais alors, que s'est-il vraiment passé cette triste nuit de juillet 1918 ? Qu'est-il réellement advenu de la famille impériale russe ? D'autres avant nous ont mené l'enquête et obtenu des réponses.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous vivons ensemble l'heure H de la chute des Romanov et du dernier tsar de Russie, Nicolas II. Assassiné dans la cave d'une maison miteuse de l'Oural à l'été 1918. Un mystère plane sur ce qu'il a pu advenir des prisonniers. La délicate recherche de la vérité n'a dévoilé son épilogue que très récemment, après de nombreuses théories et rebondissements. Nous sommes le 16 juillet 1998. Le soleil monte dans le ciel matinal et frappe les coupoles d'or de la cathédrale de Saint-Pétersbourg. L'immense édifice orthodoxe a le cœur qui bat aujourd'hui sous le manteau que peut parfois revêtir la nostalgie. Le poids du passé, de toute sa force, s'abat sur les participants à cet enterrement tout particulier. Aujourd'hui, la Russie inhume son dernier souverain et sa famille. Lentement, les cercueils entrent dans la nef et la cérémonie commence. Nicolas Romanov est là. Il est la locomotive actuelle de la famille impériale, qui n'a d'impérial que le nom depuis 1917. L'homme est grand, élancé, la figure royale. Il compte les cercueils. En premier, celui du souverain, puis celui de sa femme, et trois autres suivent en file indienne. Trois et pas cinq. Il manque donc deux des membres de la fratrie ce 16 juillet 1998. Les trois premiers corps ont été exhumés 20 ans auparavant, dont le crâne du dernier empereur, reconnu via des tests ADN réalisés en 1990. Mené par le premier président de la Fédération de Russie à la chute de l'URSS, Boris Eltsine, cette enquête obtient des résultats controversés. En effet, certains professeurs, ayant eu accès à l'ADN du souverain, remettent en cause la véracité des tests. Mais Helsine les confirme, preuve à l'appui. Les deux corps qui manquent sont ceux de l'héritier du trône, Alexis, et de l'une des sœurs, soit Maria, soit Anastasia. À l'époque, on ne retrouve nulle trace d'ossements ou de pistes sérieuses. Ainsi, les théories qui veulent croire en la survivance d'une partie ou de tous les enfants du couple impérial subsistent. Si on enterre une partie des enfants du couple impérial en 1998, les controverses persistent. Les études ADN ne permettent pas de clore le chapitre de ces théories alternatives. Dès les années 1920, des témoignages venant de toute l'Europe affluent en Russie. Un jour, on voit l'impératrice. L'autre jour, l'une de ses filles. Tout se mélange. Le silence des autorités communistes au sujet des meurtres, qu'ils ont pourtant initialement revendiqués et justifiés, est un moteur pour ceux qui croient encore au miracle. Les Rouges, aveuglés par leur quête de sang aristocratique et de vengeance, auraient-ils pu faire preuve de compassion ? Tentons d'éclaircir le mystère. Vous allez me dire, les tests ADN sont des preuves assez solides qui devraient nous permettre de ne pas discuter d'une éventuelle survie des membres de la famille. Certes. Mais en l'occurrence, des enquêteurs de la Gendarmerie nationale française ont noté dans un rapport datant de 2018 que des tests ADN réalisés des dizaines d'années après la mort étaient tout bonnement inutilisables. Et c'est le cas ici. De grands légistes ont également déconstruit l'argumentaire de la disparition quasi totale des corps par le feu. Pour eux, impossible de venir totalement à bout de 11 corps en 3 jours seulement. Alors, qui a bien pu s'en tirer ? Les pistes les plus sérieuses mènent aux enfants. De nombreux imposteurs se sont présentés à partir de 1930 comme étant les enfants de Nicolas II et d'Alexandra de Russie. Reprenons au cas par cas les témoignages. La grande duchesse Maria aurait été exfiltrée en octobre 1918 vers l'Allemagne grâce au commissaire soviétique aux affaires étrangères, lointain parent de l'impératrice. De plus, cet homme a démenti le massacre de la famille en 1922 à la conférence de Gênes. Maria aurait épousé un prince ukrainien en Roumanie, prenant le nom de Cecilia d'Ifonzo Tchapskaya, et se serait installée en Belgique, puis en Italie. Elle serait morte d'un cancer à l'âge de 71 ans. Sur sa tombe figure le trio magique S.A.I., Son Altesse Impériale. La découverte, somme toute fortuite, de sa tombe n'a lieu qu'en 1979, soit 9 ans après sa mort. En 1980, son petit-fils, Alexis Durazzo, fait paraître son testament et se revendique arrière-petit-fils de Nicolas II. Elle avait expressément demandé que cela soit publié 10 ans après sa mort. Certains auteurs ont donné foi à ces allégations, ayant également rencontré un officier militaire supposé témoin de sa survie et attestant l'avoir accompagné depuis son départ de Russie jusqu'à son mariage. La fille aînée du couple impérial, Olga, serait partie vers l'Allemagne. Elle y aurait vécu jusqu'en 1939 sur les propriétés terriennes de son parrain, Guillaume II. Mariée durant 2 ans, elle serait ensuite restée célibataire sous un nom d'emprunt. Partant à la veille de la Deuxième Guerre mondiale dans le nord de l'Italie, elle y serait restée jusqu'à sa mort à l'âge de 80 ans, en 1976. Des témoins évoquent des photos et une visite officielle des deux sœurs auprès du pape. Elles auraient vécu grâce à des pensions versées par Guillaume II d'abord, par le pape Pie XII ensuite, puis par la famille de l'ancien empereur allemand. Un cousin germain venu de ce pays pense l'avoir rencontré en 1957. Il assure l'avoir reconnu et ils se seraient échangés des souvenirs d'enfance. Certains témoignages rapportent même que l'impératrice n'aurait pas été tuée non plus dans cette cave de l'Oural. On suppose qu'elle aurait fini sa vie dans un couvent de Lvov en Pologne jusqu'à l'éclatement de la guerre 1939-1945 avant de mourir en Italie dans un couvent florentin en 1942. Des témoignages existent et attestent que sa captivité, comme celle de ses filles, aurait été couverte par les autorités papales. Tatiana, elle, serait partie en Angleterre ou en Italie. Les témoignages à son sujet sont très peu nombreux. En tout cas, une nonne les aurait vus, elle, ses trois sœurs et leur mère en 1919 en Italie. Dernier détail, et non des moindres, le patriarche religieux russe refusa de présider la cérémonie de juillet 1998. L'a-t-il fait en connaissance de cause, si l'Église a bien été la protectrice des femmes Romanov? Refusait-il de participer à une mascarade? Nul ne le sait. En tous les cas, en 2007, deux corps ont été mis au jour dans la zone où la famille impériale aurait été assassinée. La description des ossements et des tests ADN montre qu'il s'agirait des deux derniers enfants du couple. Alexis et Marie, ou Anastasia, ont donc été retrouvés et enterrés auprès des leurs. Pour autant, les théories battent toujours leur plein, de telle sorte qu'il est difficile, encore aujourd'hui, de démêler le vrai du faux. Si l'une ou l'autre des prisonnières s'est échappée, qu'est-il advenu des autres? Il semble être clair et limpide que Nicolas II et son fils ont été tués, car ils représentaient à eux deux la possibilité d'une reprise du pouvoir par la famille impériale. Mais quid du cuisinier, du valet de pied, de la femme de chambre et du médecin? Ont-ils été tués eux aussi? Quel aurait été l'intérêt de garder en vie les femmes du clan au détriment des autres? Toutes ces questions aujourd'hui n'ont aucune réponse satisfaisante. Les partisans de la survivance d'une partie de la famille Romanov sont toujours aussi nombreux et se rassemblent autour des témoignages que je viens d'évoquer. Vous l'aurez remarqué, nous avons passé en revue les destins de l'impératrice et de ses filles, à l'exception d'une seule, Anastasia. La survie de la grande duchesse forme à elle seule une affaire à part entière, où rebondissements et théories sont très nombreux. Photos, témoignages, parcours de vie des plus incroyables. Cette affaire est connue sous le nom de son personnage principal, derrière lequel se cacherait Anastasia. Anna Anderson. Mais ça c'est une autre histoire. Voilà pour ce récit palpitant que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.